Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, c'est donc aujourd'hui la grande fête de l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie qui doit être chère au cœur de tous les catholiques et tout particulièrement auprès des catholiques français. Vous savez que la patronne officielle de la France, c'est Notre-Dame invoquée sous le titre de Notre-Dame de l'Assomption. Et Dieu sait si nous avons besoin de prier pour notre pauvre pays de France. Et selon la coutume, après la messe, donc nous aurons le salut du Saint-Sacrement, chantera les litanies de la Sainte Vierge, l'odeur de Notre-Dame, et on renouvellera le vœu de Louis XIII, qui a consacré, en 1638, il a consacré la France au cœur immaculé de Marie. Et donc on renouvellera, quand ça devrait être fait tous les ans, la consécration de notre pauvre pays à Notre-Dame. La dévotion envers la Très Sainte Vierge Marie est absolument indispensable pour arriver à son Fils. Là qu'il faut bien comprendre. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu par elle, puisque c'est elle qui a donné l'humanité à notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ a voulu prendre son humanité dans le sein très pur de la Très Sainte Vierge Marie. C'est pour cela qu'il a voulu que cette jeune fille, qui avait 14 ans au moment de la visite de l'ange, il a voulu que cette jeune fille, Marie de la tribu de David, ait reçu un privilège extraordinaire. C'est la seule créature humaine, dehors de notre Seigneur Jésus-Christ, dans son humanité bien sûr, c'est la seule créature humaine qui a reçu du bon Dieu la grâce, un signe extraordinaire d'avoir été préservée du péché originel. Elle est Immaculée Conception. C'est le pape Pie IX qui l'a déclaré en 1858, donc il a 1854, pardon, il a déclaré donc l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge Marie. C'est Saint Bernard qui disait De Maria nunquam satis, de la Sainte Vierge Marie, on ne parle jamais assez. Donc elle est le pont en quelque sorte qui nous unit à notre Seigneur Jésus-Christ. De la même façon que notre Seigneur Jésus-Christ, si vous voulez, était uni à sa mère dans le sein très pur pendant 9 mois par le cordon ombilical qui amenait au cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, au Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang même de la Très Sainte Vierge Marie. Donc c'est le sang de la Vierge qui, littéralement, venait faire vivre, survivre l'enfant Jésus dans le sein de sa mère, donc le Dieu créateur du ciel et de la terre, qui a accepté d'être réduit, je dirais, à la taille d'un petit fœtus dans le corps de sa mère. Et c'est la Très Sainte Vierge Marie qui a nourri son fils pendant 9 mois, de la même façon, si vous voulez, aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ a voulu que sa mère soit le pont qui unisse les hommes d'ici-bas par le corps mystique du Christ à notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et on dit qu'elle est d'une certaine façon le pontife dans ce sens-là. Pontife, ça vient du latin ponts. Ponts, c'est le pont. Bon. On peut expliquer avec un autre mot très moderne, mais ça, je pense que ça explique bien les choses. On peut considérer la Très Sainte Vierge Marie non seulement comme quelqu'un qui nous amène à notre Seigneur, si vous imaginez quelqu'un qui est au pied de la croix, notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, juste après sa mort, vient d'ouvrir son cœur. Et puis il voudrait s'approcher du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ pour s'abreuver au sang qui coule encore du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, mais notre Seigneur Jésus-Christ est crucifié sur la croix, il est trop haut, on ne peut pas arriver à lui. La Très Sainte Vierge Marie, je dirais, est l'escalier, l'escabeau littéralement, qu'on peut gravir pour pouvoir s'approcher du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ et s'abreuver au sang qui coule de cette ouverture sacrée. On peut dire, et dans ce sens-là aussi, que la Très Sainte Vierge Marie est comme un sas, si vous voulez. Je vous donne un exemple tout simple. J'ai oublié le nom de cette ville, il y a un village en Russie qui est l'endroit le plus froid du monde. La température descend à moins 60 l'hiver, des choses épouvantables. Et les maisons, évidemment, sont chauffées, parce que sinon personne ne pourrait survivre. Et comme il fait tellement froid dehors, lorsque les gens rentrent dans la maison, ils ne peuvent pas rentrer directement dans la maison. Ils ne peuvent pas passer de moins 60 à plus 18 ou plus 20 degrés. Le cœur ne tiendrait pas le coup. Donc ils sont obligés de passer par un sas. À l'entrée de toutes les maisons dans ce village, il y a un sas d'entrée où il fait à peu près 0 degré. Et donc les gens passent dans ce sas, attendent un petit peu dans le sas pour déjà commencer à élever la température si vous voulez, de leur corps, dans le bon sens, et ils vont enlever les vêtements très chauds qu'ils ont pour l'extérieur, et ensuite ils rentrent dans la maison. Mais c'est un peu le rôle de la Troisième Vierge Marie. La Troisième Vierge Marie est comme un sas, si vous voulez, dans le sens qu'on ne peut pas directement aller dans le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Je dirais, strictement parlant, il est trop chaud de la miséricorde. Et donc, pour pouvoir laisser à notre cœur humain le temps de s'habituer à la température extraordinairement chaude du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, on passe par un sas. Ce sas, c'est la Troisième Vierge Marie. Donc on est dans ce sas, et là on peut se préparer avec dignité à rentrer, avoir l'honneur extraordinaire de rentrer dans le cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le cœur immaculé de Marie mène au Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que l'Église enseigne que la Troisième Vierge Marie est médiatrice de toutes les grâces. Elle est co-rédemptrice du genre humain. Il y avait déjà au temps de la fin du règne de Pie XII, qui est mort en 1958, des modernistes qui auraient voulu, pour plaire aux protestants, qu'on supprime ces titres à la Troisième Vierge Marie. Ils ne pouvaient pas supporter le titre de co-rédemptrice du genre humain, médiatrice de toutes grâces. Parce que les protestants disaient, on va directement à notre Seigneur Jésus-Christ, sans passer par, on n'a pas besoin de la Troisième Vierge Marie, on n'a pas besoin de passer par elle. Et Pie XII avait bien sûr résisté à ces demandes. Plus ou moins, il avait dit aux protestants, occupez-vous de vos affaires, et on garde ce titre. Malheureusement, le successeur immédiat de Pie XII, celui qui a prétendu être pape après lui, Jean XXIII, n'a pas eu la même prudence. Et actuellement, dans l'église de Vatican II, il nie complètement ces deux perles de la couronne de la Très Sainte Vierge Marie, médiatrice de toute grâce et co-rédemptrice du genre humain. Donc cette dévotion envers la Très Sainte Vierge Marie est absolument nécessaire pour pouvoir atteindre notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a certains saints qui disent, c'est à mon avis très vrai, ils disent, lorsque le démon cherche à rentrer dans une âme, première chose qu'il fait, c'est regarder par la fenêtre de derrière, une petite fenêtre sur le côté, si la Très Sainte Vierge Marie est dans l'âme. Et si la Très Sainte Vierge de la Marie est dans l'âme, il ne cherche pas à rentrer dans cette âme parce qu'il sait qu'il n'a pas le pouvoir de vaincre la Très Sainte Vierge Marie. N'oubliez pas ce qui a été dit sur son pouvoir. Tout pouvoir de la Très Sainte Vierge Marie est expliqué dans le livre de la Genèse. Après la chute d'Adam et Ève, qu'est-ce qu'il est dit en parlant d'elle? Ipsa conteret. Elle lui écrasera la tête. Vous savez, dans les nouvelles Bibles de l'Église de Vatican II, ils ont mis ça en masculin. Il écrasera sa tête en disant, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui va écraser la tête du Christ. C'est vrai que notre Seigneur Jésus-Christ écrase la tête du... Excusez-moi, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui va écraser la tête du démon. C'est vrai que notre Seigneur écrase la tête du démon, mais en passant par elle, en passant par sa mère. Et donc, même aujourd'hui, Notre-Dame est au ciel, puisqu'elle est montée au ciel à la fin du cours de sa vie terrestre, dit le pape Pie XII, Notre-Dame au ciel a un pouvoir énorme sur son Fils. De même que notre Seigneur Jésus-Christ, comme enfant, a obéi à notre Sainte Vierge Marie, a obéi à Saint Joseph, dans la Sainte Famille, alors que notre Seigneur était bien plus saint que Saint Joseph, bien plus saint que la Sainte Vierge Marie. Notre Seigneur a obéi à son Père putatif et à sa Mère, la Sainte Vierge Marie. De la même façon, au ciel, aujourd'hui, la Sainte Vierge Marie a toujours ce même pouvoir sur son Fils. Et notre Seigneur Jésus-Christ, toujours au ciel, obéit à sa Mère. Quelque chose d'impensable quand on pense à ces choses-là. C'est quelque chose qui est presque incompréhensible. C'est là le mystère. C'est le mystère de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ pour sa mère. Ça prouve le degré d'amour qu'il a pour sa mère. Mais il faut aussi faire remarquer une chose. C'est que bien que notre Seigneur Jésus-Christ ait un degré d'amour extraordinaire pour sa mère, il aime encore plus le pécheur. La Sainte Vierge Marie n'a jamais péché puisqu'elle est Immaculée Conception. Mais strictement parlant, on peut aller jusqu'à dire que le degré d'amour que notre Seigneur Jésus-Christ a envers le pécheur, tout pécheur repentant, est presque supérieur au degré d'amour qu'il a pour sa mère. Pourquoi ? Parce que la Très Sainte Vierge Marie, strictement parlant, je dis bien strictement parlant, n'ayant aucun péché, n'avait pas besoin de la rédemption au même degré que nous, bien que le paradis ait été fermé après le péché originel pour tout le monde, y compris pour la Très Sainte Vierge Marie. Cependant, notre Seigneur Jésus-Christ est d'abord mort pour les pécheurs. C'est ce qu'il a dit expressément. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, je suis venu non pas pour les bien portants, je suis venu pour les malades. Les malades, c'est qui ? C'est vous et moi. Nous sommes des malades. Nous sommes des malades parce que malheureusement, nous avons offensé notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Sainte Vierge Marie, au contraire, elle n'est pas malade parce qu'elle n'a jamais péché. Imagine une âme qui non seulement n'a jamais commis moins de péchés véniels, mais n'a même jamais été touché par le démon. Ce sont des saints, des pères de l'Église qui font remarquer que notre Seigneur Jésus-Christ a accepté d'être touché par le démon. Non pas intérieurement, mais extérieurement. Lors des trois tentations du Christ, il a été touché par le démon, parce que le démon l'a pris, l'agneau semé du temple. Non, pour essayer de le tenter, bien sûr, le démon n'a pas pu rentrer dans le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien ça, le bon Dieu n'a pas permis que ça se passe pour sa mère. C'est pour nous expliquer cette nécessité absolue d'une grande et tendre dévotion envers notre Sainte Vierge Marie. On dit, et c'est certainement très vrai, que la dernière prière qu'on oublie, c'est Dieu vous salue Marie. On voit parfois des grands pécheurs qui ont tout abandonné pendant des années et des années, mais ils gardent l'habitude de dire trois Je vous salue Marie tous les soirs. Et bien tant qu'un grand pécheur, même qui a abandonné toute pratique religieuse pendant des années et des années, garde les trois Je vous salue Marie du soir, ça lui maintient la tête hors de l'eau et il peut survivre. Lorsque un catholique a baptisé, donc a oublié son Je vous salue Marie, alors là, il n'y a plus moyen de maintenir la tête hors de l'eau et il va couler. C'est l'enfer. Alors essayons, en gardant l'esprit de l'Église, d'avoir cette véritable dévotion envers la Sainte Vierge Marie. Vous savez que c'est le titre d'un très beau livre de Saint Louis-Marie Guyon de Montfort, traiter la vraie dévotion à la Sainte Vierge Marie. Le fait qu'il parle d'une vraie dévotion à la Sainte Vierge Marie prouve qu'il y en a une fausse. Il existe une fausse dévotion à la Sainte Vierge Marie. Et malheureusement, beaucoup des apparitions non reconnues par l'Église, parfois, mènent à une fausse dévotion à la Sainte Vierge Marie, une dévotion qui n'est pas équilibrée. Donc il y a plusieurs moyens d'honorer la Sainte Vierge Marie. Je vais prendre simplement comme exemple les trois moyens, je dirais, les plus officiels de l'Église catholique pour honorer la Sainte Vierge Marie. Le premier moyen est tout simple, c'est la médaille miraculeuse. C'est qu'en 1830, Notre-Dame est apparue à Paris, en plein centre de Paris, rue du Bac, à Sainte-Catherine Labouret. Elle est apparue, elle lui a demandé de faire cette petite médaille, faire frapper cette petite médaille de Notre-Dame qui est représentée avec les mains ouvertes comme ça, d'où découlent toutes les grâces, pour bien montrer qu'elle est médiatrice de toutes ces grâces, avec la formule « Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». Répétez souvent cette formule. Même dans les moments difficiles, les moments de tentation, les moments de découragement, ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Il y a tout là-dedans. Ô Marie, conçue sans péché, c'est l'affirmation de l'Immaculée Conception de notre Sainte Vierge Marie. Priez pour nous. C'est-à-dire qu'on reconnaît et que la Très Sainte Vierge Marie doit être le pont entre moi et notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il faut qu'elle prie pour moi. Ça, c'est la co-rédemption de notre Sainte Vierge Marie. Elle est médiatrice de toute grâce. Priez pour nous, qui avons recours à vous. Il faut que, si vous voulez, dans ce pont qu'est la Sainte Vierge entre Notre-Dame et son Fils, on peut passer dans les deux sens sur ce pont. Les grâces descendent de notre Seigneur Jésus-Christ par la Sainte Vierge vers nous, mais il faut aussi que nos prières de demande, les prières impétratoires, les prières de demande passent depuis notre humanité jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ par notre Sainte Vierge Marie. Et donc, ayez toujours cette médaille sur vous. Je n'en ai pas demandé, j'en ai dans mon bureau. Ayez cette médaille sur vous et priez souvent cette prière. Tout comme vous lisez votre chapelet. Dans les moments difficiles de la vie, Dieu sait si ça arrive, embrassez cette médaille et demandez à ta Sainte Vierge Marie de vous protéger. Le deuxième moyen, évidemment, c'est le chapelet. Le chapelet qui a été donné par la Très Sainte Vierge Marie, tout proche d'ici. Vous savez que c'est à Notre-Dame de la Drèche. Donc juste à l'entrée d'Albi, que la Très Sainte Vierge Marie est apparue à Saint-Dominique en 1214. Avant la mort de Saint-Dominique, il est mort en 1221. Et en 1214, la Sainte Vierge Marie lui est apparue et lui a donné le chapelet justement pour vaincre les hérésies. Pour vaincre toutes les hérésies, toutes les erreurs du monde moderne. Et donc il y a ce chapelet qui est en quelque sorte une deuxième armure. On peut considérer la médaille miraculeuse comme une première armure qu'on met pour protéger notre âme, protéger notre cœur. Il y a une deuxième armure, une deuxième couche d'armure, si vous voulez, contre les assauts du malin, contre les assauts du démon, qui est le chapelet. Priez ce chapelet tous les jours. Notre Sainte Vierge Marie a donné ce chapelet surtout pour lutter contre le manichéisme, contre les hérésies albigeoises, contre le catharisme. Et puisque le modernisme est l'égout collecteur de toutes les hérésies, on a besoin du chapelet aussi pour lutter contre toutes ces hérésies et garder le sens catholique, garder l'esprit catholique, notre intelligence et notre volonté fixées sur notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, priez ce chapelet tous les jours. Si vraiment vous ne pouvez pas, hein, j'en ai au moins une dizaine de chapelets par jour. Quelqu'un qui prie son chapelet tous les jours et quelqu'un qui a une protection. Vous savez que le chapelet était tombé un petit peu en désuétude après Saint-Dominique et c'est un bienheureux, je ne crois pas qu'il soit canonisé, Alain de la Roche, qui a relancé la dévotion à notre Sainte Vierge Marie. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ lui est apparu pour lui demander de remettre en honneur le rosaire. Et donc le rosaire a été donné par notre Sainte Vierge Marie à Saint-Dominique en 1214, mais c'est plus tard, en 1400, autour des années 1450-1460, que la Très Sainte Vierge Marie, ou notre Seigneur, a utilisé un dominicain, donc Alain de la Roche, bienheureux Alain de la Roche, pour relancer le rosaire, relancer le chapelet. Et Dieu sait si aujourd'hui on aurait besoin de relancer le chapelet. On disait au séminaire, le Père Barrière nous disait c'est la mitraillette à 50 coups contre le démon. Et c'est vrai. Et si on dit son rosaire tous les jours, c'est une mitraillette à 150 coups contre le démon. Et donc, ayons cette deuxième armure. Et la troisième armure, c'est l'armure du scapulaire. Le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel. Il y a beaucoup de scapulaires reconnus par l'Église, mais je pense que le plus connu, le plus, je dirais peut-être le plus traditionnel, dans ce bon sens du terme, c'est le scapulaire brun de Notre-Dame du Mont-Carmel. Vous savez qu'elle est apparue à Cambridge, en Angleterre, un grand saint, Saint Simon Stock, qui était général, supérieur général des Carmes, et elle lui est apparue avec ces deux petites bouts de laine réunies par des lacets qu'on porte sur son corps, une partie derrière, une partie devant, sur le ventre, réunies par deux lacets avec une consécration spéciale, une imposition spéciale faite par le prêtre. Et la Très Sainte Vierge Marie a donné à ce scapulaire, qui est une réduction de l'habit des Carmes, des privilèges absolument invraisemblables. Donc il faut connaître ces choses-là. C'est des richesses extraordinaires que nous a données le bon Dieu. Elle a promis, Très Sainte Vierge Marie, Très Sainte Vierge Marie, c'est pas une menteuse, hein. Très Sainte Vierge Marie a promis que tous ceux qui mourraient avec le scapulaire seraient préservés des flammes de l'enfer. C'est pas rien. C'est extraordinaire comme promesse. Évidemment, il y a une condition, enfin, il y a deux conditions strictement parlant. La première condition, c'est la condition de la chasteté de son état. La chasteté parfaite pour ceux qui ne sont pas mariés. Et la deuxième condition, c'est de... Alors, au début, c'était de prier le petit office de la Sainte Vierge tous les jours. C'est remplacé par le chapelet, par le pouvoir de l'Église. En disant son chapelet tous les jours, vous remplissez les promesses. Et si vous mourrez avec le scapulaire, eh bien, vous serez préservé des flammes de l'enfer. C'est pour ça que quand on s'occupe des gens qui sont très malades à l'hôpital, qui sont mourants à l'hôpital, il faut bien vérifier que les infirmières n'enlèvent pas le scapulaire. Sous prétexte d'avoir un accès facile à la peau pour faire pour faire les piqûres et tout ça, souvent elles enlèvent les médailles, elles enlèvent le scapulaire. Obligez-les à garder le scapulaire. Que les membres de la famille qui sont mourants gardent le scapulaire pour aider justement ces personnes à aller au ciel. C'est pas un talisman, il ne faut pas croire que parce que je garde le scapulaire, je peux faire n'importe quoi, je suis sûr d'être sauvé. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Parce qu'évidemment, il faut avoir la volonté de suivre la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, de remplir ses commandements. Et l'Église a rajouté plus tard une deuxième indulgence, qu'on appelle l'indulgence sabbatine, en promettant que tous ceux qui portent le scapulaire, qui sont au purgatoire, parce que la Sainte Vierge Marie a promis qu'on éviterait le feu de l'enfer, mais pas le purgatoire. L'indulgence sabbatine rajoute que si nous sommes au purgatoire avec le scapulaire, la Sainte Vierge viendra sauver cette âme, l'amener au ciel le samedi qui suit notre mort. Donc il faut prier pour mourir un vendredi soir, comme ça, si on a le scapulaire, dès le samedi on peut être au ciel. Et ces trois choses, donc la médaille miraculeuse, le chapelet, le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel sont en quelque sorte comme trois cuirasses qui nous protègent des assauts du malin. C'est pas contre la chair et le sang qu'on lutte, on lutte contre les esprits des ténèbres, nous dit saint Paul. Et donc, il faut l'aide de notre Seigneur Jésus-Marie. Notre Seigneur a voulu justement que sa mère soit comme en quelque sorte le protecteur de nos âmes, le protecteur de l'Église. C'est pour ça qu'elle est Mère de l'Église, Mater Ecclesiae, c'est un autre de ses titres de gloire. Alors prions la Très Sainte Vierge Marie, mes bien chers frères, prions d'abord pour chacun d'entre nous, pour que nous ayons justement à cœur de conserver toujours cette protection, ces trois cuirasses dont je viens de vous parler. Mais aussi prions pour notre pays, puisque le 15 août est la fête nationale de la France, le 14 juillet étant la fête de Saint Bonaventure, bon, et la fête de la Révolution. Nous ne sommes pas des révolutionnaires, nous sommes des catholiques. Donc pour un catholique, la fête nationale du pays, c'est le 15 août. C'est Saint Pie X qui disait que nous avons les gouvernants qu'on mérite. Eh bien, on paye largement toutes les bêtises qu'on a fait dans les siècles précédents. Il y a un texte dans Isaïe, prophète Isaïe, qui dit qu'en punition de nos péchés, Dieu nous donnera des enfants pour princes et des efféminés nous dirigeront. Ouvrons les yeux, c'est exactement le châtiment qu'on voit autour de nous. Et donc comment, je dirais, effacer ce châtiment épouvantable qu'on a mérité à cause de nos péchés? Eh bien, effaçons tout cela par la dévotion à la Très Sainte Vierge Marie. Remettons la Très Sainte Vierge Marie à l'honneur de notre, au moins dans notre âme, si on ne peut pas malheureusement la remettre en honneur dans tout le pays, parce que nous n'avons pas les pouvoirs politiques pour cela, au moins remettons la Très Sainte Vierge Marie à l'honneur dans nos cœurs par l'état de grâce. Notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas rester dans une âme qui est dans l'état de péché mortel. Mais il est évident qu'une âme en état de péché mortel ne peut pas aussi prétendre conserver notre Sainte Vierge Marie. Elle doit quitter la maison. Ce n'est pas possible qu'elle reste dans la maison si le démon est là. D'ailleurs, si nous sommes en état de péché mortel, c'est malheureusement que notre Sainte Vierge Marie a quitté la maison. C'est pour cela que le démon a pu pénétrer. Je vous ai expliqué que le démon ne pénètre pas dans une âme dans laquelle règne notre Sainte Vierge Marie. Mais même dans une âme qui est en état de péché mortel, la Sainte Vierge, elle n'est pas loin, juste à côté, elle attend. Elle sait qu'elle ne peut pas rentrer dans la maison parce que malheureusement, nous avons eu la folie de faire sortir notre Sainte Vierge Marie, de la remplacer par le démon. Quelle folie épouvantable. Mais elle attend, elle est là. Et elle nous donne encore des grâces. N'oublions pas, c'est l'enseignement de l'Église que même une âme en état de péché mortel peut encore recevoir des grâces du bon Dieu. Heureusement d'ailleurs. Imaginez qu'une âme en état de péché mortel ne puisse plus recevoir de grâces du bon Dieu. Elle ne pourrait plus rien faire. On ne pourrait même plus aller se confesser. On ne pourrait même pas regretter ses péchés. Il n'est pas possible de regretter un péché mortel, même un simple péché véniel, sans les grâces particulières du bon Dieu. Si nous sommes en état de péché mortel, nous ne pouvons pas recevoir la grâce sanctifiante, puisque le péché mortel est un obstacle à la grâce sanctifiante. Mais le bon Dieu nous donne ce qu'on appelle des grâces actuelles. Les grâces actuelles, c'est des grâces qui vont augmenter en nous la contrition et nous permettre d'aller nous confesser. Et comme ces grâces actuelles passe toujours par la Très Sainte Vierge Marie, elle est à la porte pour obtenir que ces grâces, si vous voulez, viennent quand même, s'acheminent, si vous voulez, dans notre cœur pour que nous puissions regretter nos péchés, savoir nous mettre à genoux au pied du bon Dieu, au pied du ministre du bon Dieu et dire « Pardonnez-moi mon Père parce que j'ai péché. » Et à ce moment-là, par l'intermédiaire de la Très Sainte Vierge Marie, eh bien, nous pourrons recevoir ces grâces actuelles, retrouver l'amour du bon Dieu, retrouver la grâce sanctifiante, c'est-à-dire la charité du bon Dieu qui règne en nous et retrouver la paix du cœur. Donc demandons, mes bien chers frères, mes bien chers amis, demandons à notre Seigneur Jésus-Christ, à Notre-Dame, toutes ces grâces dont nous avons besoin. Pour nous, pour nos familles, pour nos, surtout les membres de nos familles qui ont peut-être abandonné complètement notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut jamais se décourager, que tant qu'il y a cette dévotion mariale, il y a de l'espoir. Notre Seigneur Vierge Marie est celle qui a, on dit qu'elle est le marteau des hérésies. Marteau des hérésies. Et donc elle est celle, si vous voulez, choisie par le bon Dieu pour cogner sur le démon, littéralement. Et Dieu sait, puisque nous sommes envahis par l'hérésie moderniste dans le monde entier maintenant, par l'Église de Vatican II, eh bien, demandons à la Très Sainte Vierge Marie qu'elle nous donne, qu'elle obtienne pour nous les grâces de force, les dons de conseil, le don d'intelligence, tous les dons du Saint-Esprit, pour que nous puissions garder la foi et surtout la transmettre. Transmettre à ceux dont nous avons la charge, transmettre à nos enfants, vivre, si vous voulez, tout simplement vivre de la foi de notre Seigneur Jésus-Christ, de l'amour de notre Sainte Vierge Marie pour son Fils, et que nous puissions vivre de cette foi, vivre de cet amour. Et à ce moment-là, nous serons dans le monde moderne, si vous voulez, j'utilise souvent cette image, comme un flambeau qui brûle. La nuit noire, un flambeau. Alors les gens sont perdus, ils voient une lumière, ah, il y a une lumière, on y va. Et c'est notre Sainte Vierge Marie qui est là. Donc il faut que lorsque les gens nous voient agir, nous entendent parler, voient notre comportement, il faut qu'ils puissent voir derrière chacun d'entre nous, il faut qu'ils puissent voir Notre-Dame. Et s'ils voient Notre-Dame, derrière Notre-Dame, il y a leur fils, il y a son fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous demandons toutes ces grâces pendant cette bête, pendant cette fête de l'Assomption à notre Sainte Vierge Marie, justement une des plus grandes fêtes de la Sainte Vierge avec l'Immaculée Conception le 8 décembre. Donc demandons toutes ces grâces actuelles, en augmentation aussi en nous de la grâce sanctifiante, justement pour que nous puissions être de plus en plus fidèles à l'amour que nous devons envers notre Mère du Ciel. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.